Dis-moi, t'aimerais faire quoi quand tu seras plus grande ? Moi, quand je serai grande, je serai... Et toi ? Quand je serai grande, un podcast RLP par Hélène Grillon. Bonjour les amis, c'est Hélène Grillon. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec une femme aux multiples talents qui a marqué à la fois l'histoire du grand cinéma hollywoodien et le monde de la tech et de l'ingénierie. Née en Autriche à l'aube de la Première Guerre mondiale, sa carrière décolle très jeune dans l'un des films les plus subversifs des années 30. Mais elle n'est pas seulement une actrice glamour, malgré ce que beaucoup de l'époque ont pu penser. Derrière les projecteurs, elle était aussi une brillante inventrice. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a co-inventé une technologie de communication secrète destinée à guider les torpilles, ce qui est aujourd'hui considéré comme l'ancêtre du Wi-Fi. Il faudra attendre un titre posthume pour qu'elle soit enfin célébrée à sa juste valeur, comme le cerveau de génie qu'elle était. Bref, sans plus attendre, partons à la rencontre de cette brillante artiste et ingénieure autodidacte de l'ombre, j'ai nommé Eddie Lamar. Si elle était venue au monde 50 ans plus tard, elle aurait peut-être été célébrée pour ses brillantes inventions. Malheureusement, l'histoire ne se réécrit pas. Pourtant, notre héroïne du jour commence sa vie au début de l'un des plus grands bouleversements du XXe siècle. Nous sommes à Vienne, dans l'Autriche-Hongrie de l'époque, le 9 novembre 1914, lorsque la petite Hedwige Kissler, de son vrai nom, vient au monde. À l'instant même où toute la famille la rencontre, chacune et chacun s'émerveille devant tant de beauté. Eddie a déjà une grâce naturelle qui ne passe pas inaperçue. Elle grandit dans une famille juive aisée et à moitié hongroise. Sa mère Gertrude est pianiste professionnelle et son père Émile est banquier. C'est avec lui qu'elle apprend plusieurs langues et qu'elle développe sa sensibilité pour l'ingénierie. Eddie veut tout savoir sur le monde dans ses moindres détails. Mais ce n'est pas la qualité première que les gens retiennent chez elle. Toute la journée, le monde extérieur ne cesse de lui dire à quel point elle est la plus belle de toutes les petites filles. Gertrude, sa mère, sait très bien que sa fille sera toujours complimentée pour sa beauté. À la maison, elle essaie alors d'être sévère et exigeante. Eddie ne doit pas penser que seul son physique l'amènera quelque part dans la vie. Une tête bien faite et bien pensante, avec un esprit très indépendant. Voilà l'idée. Depuis qu'elle est toute petite, Eddie adore imiter les passants, son chat ou encore sa famille. Elle passe des heures à s'entraîner pour faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Elle, qui est rigoureuse, fait bien attention à tous les détails, de la démarche à la voix. C'est alors qu'un jour, elle voit passer l'annonce d'un casting pour devenir script dans un studio de cinéma de Vienne. Sans trop savoir dans quoi elle met les pieds, Eddie se rend à l'audition et parvient à décrocher une petite apparition dans un film. Elle se dit que ses parents vont sûrement être fâchés d'apprendre qu'elle a séché l'école, mais elle revient heureuse et changée de cette expérience. Elle décide alors, le soir même, de leur annoncer qu'elle arrête l'école. Sa voix sera désormais celle du cinéma, du moins pour l'instant. En Europe, c'est à Berlin que la plupart des grands tournages se déroulent, même si le cinéma américain prend de plus en plus d'ampleur à l'international. Eddie fait quelques petits rôles dans des productions, jusqu'à se faire remarquer à l'âge de 18 ans. On lui propose une opportunité énorme, celle de tenir le premier rôle dans un film tchèque appelé Extase. D'ailleurs, en lisant le scénario, Eddie le trouve plutôt bien réussi et très moderne. Dans Extase, son personnage aperçoit un bel inconnu lors d'une balade à la campagne, et c'est direct le coup de foudre. Ils deviennent alors amants, mais elle le quitte plus tard dans le film car elle est en fait mariée. Dès sa sortie, le long métrage fait un carton et des milliers de spectateurs viennent le voir dès la première semaine. Il faut dire que le succès tient aussi à la performance de son interprète principal. Eddie alerte toute sa famille sur plusieurs scènes en particulier, notamment l'une des plus saisissantes, où elle est nue et elle simule un orgasme. C'est la première fois dans l'histoire du cinéma qu'une actrice peint un orgasme à l'écran et qu'il est principalement question de désir féminin. Le père d'Eddie est alors choqué de la scène et quitte la salle de cinéma. Avec ce rôle, on parle d'Eddie partout dans la presse internationale. La même année, l'un des hommes d'affaires les plus riches du pays s'obstine à la draguer. Ce monsieur, Fritz Mandl, est l'un des plus gros fabricants et fournisseurs d'armes, entre autres de dirigeants comme Mussolini. Il se marie quelques temps plus tard, et Eddie se rend bien vite compte du quotidien lassant qu'elle va devoir subir jusqu'à la fin de sa vie. Son mari ne cache pas sa proximité avec les régimes fascistes de l'époque. Il invite régulièrement ses amis et clients, et Eddie fait ce qu'elle a à faire. Sourire poliment quand elle doit sourire. Telle une épouse décorative, Eddie joue le pire rôle de sa vie. Dans son autobiographie, elle écrira plus tard « Ce n'est pas difficile d'être glamour. Il suffit de ne pas bouger et d'avoir l'air stupide. » Pour passer le temps, elle prête une oreille attentive à toutes les conversations qu'elle entend dans la maison, des histoires de guerre, de plans secrets et de missiles. Eddie n'a pas perdu sa curiosité pour la technologie et l'ingénierie. Très vite, le quotidien se dégrade beaucoup lorsque son mari lui interdit de jouer de nouveau dans un film, maintenant qu'ils sont mariés. Sa jalousie maladive le pousse même à dépenser des cents et des mille pour détruire toutes les copies du film Extase. Il lui interdit de sortir, il la fait espionner, bref, la vie d'Eddie devient une vie de prisonnière. Au même moment, son père Émile perd la vie. Eddie a alors le déclic. Il est hors de question qu'elle passe une minute de plus dans cet enfer qui l'étouffe. Elle ne veut avoir aucun regret. Elle prend alors la décision de quitter Fritz. Après de nombreuses péripéties pour divorcer de lui, elle prend finalement ses valises et fuit direction les États-Unis à bord du paquebot Normandie. Elle a désormais un rêve en tête, faire carrière là-bas. Par miracle, il se trouve que sur le bateau, Louis B. Mayer, le boss du plus grand studio hollywoodien, la Metro Goldwyn Mayer, est lui aussi ici. Elle essaie une première fois de l'aborder, en vain, et rabat sa stratégie sur Madame Mayer. Elles deviennent amies, et avec cela, Eddie décroche un contrat de 7 ans avec la MGM, avant même d'avoir posé un pied en Amérique. Maintenant qu'elle est actrice à Hollywood, Louis B. Mayer aimerait qu'elle trouve un nom qui sonne un peu moins allemand. Il lui propose de devenir Eddie Lamar, en référence à Barbara Lamar, une actrice qu'il apprécie particulièrement. Pendant des mois, Eddie bosse son anglais à fond, en regardant tous les films qu'elle peut entre deux tournages. Apprendre l'anglais avec un emploi du temps chargé n'est pas chose facile, mais elle fait rapidement des progrès. Grâce à ça, des portes s'ouvrent et elle obtient de plus en plus de rôles à Hollywood. Elle est quand même horrifiée de savoir qu'au même moment, à l'autre bout du globe, les nazis progressent en Europe. Alors, elle combat l'inquiétude en aménageant un petit atelier chez elle pour bricoler quelques gadgets. C'est un peu comme si la petite Eddie de 8 ans était en train de renaître. Derrière le côté pin-up qu'on lui colle à la peau se cache une véritable inventrice de génie. Même si Eddie adore passer des heures à bidouiller des trucs, beaucoup de ses plans ne fonctionnent pas, même si l'idée est carrément ingénieuse. À l'occasion d'une soirée mondaine, elle fait la connaissance un jour d'un certain Georges Anteil, un pianiste et compositeur un peu futuriste. L'une de ses idées de génie à lui est une pièce intitulée Le Ballet Mécanique, dans laquelle 16 pianos jouent de façon automatique et simultanée. L'œuvre sera alors étendue plus tard à d'autres instruments encore plus fantasques. Ensemble, ils discutent d'art, des choses du quotidien, mais surtout d'armement, même si ça peut paraître un peu bizarre. De ce qu'elle a entendu, Eddie a notamment compris une chose. Dès que les Américains tentaient d'envoyer des torpilles pour déjouer les sous-marins nazis, leurs missiles étaient systématiquement détournés. Alors au cours d'une soirée riche en conversations, une avalanche d'idées sans rapport entre elles se connecte soudain. Eddie a une intuition pour résoudre ce problème et brouiller le signal des torpilles. George aide Eddie à préciser son idée, mais surtout à la mettre au point. L'objectif des prochains mois est le suivant. Créer un système de codage de transmission pour tromper l'ennemi. Le duo passe alors tout l'automne de l'année 1940 à faire et défaire un prototype. Et en décembre, aux alentours de Noël, l'idée d'Eddie est enfin née et elle dépose un brevet sous un pseudonyme pour une technique appelée saut de fréquence. Sans surprise, elle continue à enchaîner les tournages malgré tout et ne met surtout pas sa carrière d'actrice en pause. Eddie et George proposent leur invention à l'armée américaine, qui ne comprend pas vraiment l'utilité d'une telle technologie. On fait gentiment comprendre à Eddie qu'elle devrait trouver un autre moyen de rendre service aux États-Unis. En gros, sois jolie et va voir ailleurs. Frustrée d'être traitée ainsi, elle participe quand même à l'effort de guerre en vendant des obligations. Pendant ce temps, l'armée met soigneusement ses plans au fond d'un tiroir comme classé top secret. Ils ne seront utilisés pour la première fois que pendant la crise des missiles de Cuba en 1962. Eddie en a sûrement marre de devoir s'expliquer pour être prise au sérieux. À Hollywood, elle continue de jouer dans quelques films, mais chaque fois, on lui préfère le rôle de femme fatale, un trope qui est aujourd'hui beaucoup plus analysé dans le monde du cinéma, dans son rapport au male gaze. La carrière d'Eddie ne l'épanouit finalement plus autant qu'avant. On lui prête aussi de nombreuses aventures avec des acteurs et réalisateurs célèbres pour l'époque. De ses nombreux mariages naîtront trois enfants, James, Anthony et Denise. Les années passent, son brevet est enfin ressorti des placards. D'ailleurs, les ingénieurs se demandent bien pourquoi personne n'a fait quelque chose de cette idée de génie. Allez savoir. L'armée s'empare alors de la technologie et commence à développer et améliorer des outils dont leur radar. Dans le milieu commercial, on commence aussi à s'intéresser à ce système qui pourrait bien être pratique. C'est comme ça que de fil en aiguille, l'idée a été reprise pour mettre au point le Bluetooth, les GPS ou encore le Wi-Fi. Et oui, sans Eddie Lamar, cette chronique n'aurait jamais eu lieu. Durant toutes ces années, elle suit avec fierté les avancées que permettent son invention. Même si, soyons honnêtes, elle n'a jamais touché d'argent pour son idée, ni même a-t-elle été créditée. Enfin, pour le moment. Eddie s'installe à son âge plus avancé en Floride, où elle fait tout un tas d'expériences avec la chirurgie esthétique, avec plus ou moins de succès. Elle confie d'ailleurs dans son autobiographie que sa beauté, je cite, « ne lui a apporté que tragédie et maux de tête pendant 5 décennies. Mon visage est un masque que je ne peux retirer. Je dois vivre avec. Je le maudis. » Quelques années avant qu'elle décède, en 1997, l'Electronic Frontier Foundation décide de l'honorer pour sa contribution scientifique. Même si Eddie est flattée, elle préfère que son fils aille récupérer son prix à sa place. Depuis le temps qu'elle est en Floride, personne n'a vu son nouveau visage. Mais en aucun cas, son esprit ne s'épuise. Car à plus de 80 ans, Eddie a toujours plein d'idées pour améliorer le quotidien. D'un nouveau modèle de feu de circulation à un collier phosphorescent pour chien, son génie n'a pas dit son dernier mot. Et pour finir en beauté, elle veut absolument vivre pour voir le prochain millénaire. Alors comme elle a souhaité, elle s'éteint le 19 janvier 2000. À titre posthume, elle et George ont été inscrits au registre du National Inventor Hall of Fame, qui recense les plus grands inventeurs et inventrices. Si sa nécrologie ne mentionne que sa beauté, les écrits d'aujourd'hui ont au moins le mérite de mettre en lumière son brillant esprit. En somme, cette étoile du cinéma à l'esprit de génie a trouvé ce qu'elle voulait faire quand elle serait grande. Voilà, rien que ça. Je vous remercie à toutes et tous d'avoir encore écouté ces quelques minutes passées en compagnie de l'ingénieuse et sensationnelle Eddie Lamar. J'espère que ça vous a plu. C'est le moment de conclure cet épisode, mais pas de tristesse car je vous donne rendez-vous dans 2 semaines avec une femme d'une force et d'une résilience extraordinaire dont le destin s'est entrelacé avec les glaciers impitoyables de l'Arctique. Membre du peuple Inupia, elle se retrouve à seulement 23 ans au cœur d'une expédition sur l'île Wrangel dans l'Arctique sibérien en tant que couturière et interprète. Lorsque les autres membres de l'expédition tombent malades ou sont incapables de continuer, elle est chargée avec 4 autres hommes de les soigner et de survivre dans des conditions extrêmes. Elle luttera contre le froid glacial, la faim et l'isolement en chassant pour se nourrir. Seule femme à se joindre au périple, elle en sera également la seule survivante. Je vous propose donc de découvrir prochainement l'histoire épique de celle que la presse surnommait la Robinson Crusoe féminine. Un rendez-vous qui promet encore une rencontre passionnante. Alors en attendant de nous retrouver, restez curieuses et curieux. À bientôt sur RLP.